Le vendredi 12 septembre, Benoît XVI était à Paris, au collège des Bernardins. Il prononçait un discours très attendu. Dans ce discours, le pape parle de la région de la dissimilitude, citant saint Augustin. Christian Belin, vous êtes un spécialiste de la méditation au XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que cette région de la dissimilitude ?
Saint Augustin emploie cette expression un peu mystérieuse qu'il emprunte à la philosophie de Plotin dans le livre 7, au milieu des confessions. Et il exprime ici sa détresse et son errance avant le baptême. Une sorte de crise spirituelle, on dirait aujourd'hui, proche de la déprime parfois, qui le fait en quelque sorte tomber dans un état d'abandon.
On peut dire que c'est une région intérieure de notre être ?
Oui, d'une certaine façon, oui. Elle désigne un espace vide, finalement, à l'intérieur, mais un espace sans repère. C'est une sorte de, comment dire, de no man's land intérieur où l'on ne sait plus où aller. Mais en même temps, je crois que ce n'est pas simplement intérieur. On peut en avoir l'impression par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Je crois qu'Augustin avait l'impression d'errer, bien sûr, en lui-même, mais aussi dans le monde, dans la vie, dans la ville aussi où il se trouvait. Il avait l'impression d'avoir perdu tous ses repères.
Et pourtant, il ne dit pas errance. D'ailleurs, le pape ne dit pas non plus errance, citant saint Augustin. Il dit dissimilitude. Ça veut dire qu'il y a une similitude.
Voilà, l'expression fait bien sûr référence au célèbre verset de la Genèse. Dieu a créé l'homme à l'image et ressemblance. À l'image, et au fond, dans le latin de la Vulgate, ad imaginem. Et le plus important dans cette expression, enfin, c'est la préposition ad, vers, c'est-à-dire qu'on est dans une tension, dans un dynamisme vers l'image. On tend vers cette image. Et si on a perdu ce dynamisme, alors on est dans la dissimilitude. C'est sûr que cette expression doit se comprendre par rapport à l'image.
Est-ce qu'on peut aussi l'expliquer, cette expression, avec la parabole de l'enfant prodigue ?
Oui, saint Augustin fait souvent, très souvent même, allusion, surtout dans ses sermons, mais pas simplement, à la région lointaine, regio longinqua, dans le latin, donc l'expression est proche de l'autre, dans laquelle, évidemment, le fils prodigue s'est perdu, par excès. Il n'a même pas su, finalement, aller jusqu'au bout de ses désirs humains. Il s'est perdu, donc il est allé loin, très très loin. Loin de Dieu, mais loin de lui-même. Loin de l'image qu'il aurait dû être.
Et effectivement, aujourd'hui, ce sont des traits que l'on retrouve chez nos contemporains. Vous parliez tout à l'heure de déprime.
Oui, c'est vrai que dans une logique augustinienne, on a l'impression que plus nos contemporains, enfin nous tous, plus nous voulons aller vers nos désirs, vers nos concupiscences, dirait saint Augustin, plus on veut se réaliser soi-même, plus en réalité on s'éloigne de ce que l'on devrait être et de l'image. Donc on se perd en croyant se gagner au fond.
Et alors, quel est le rôle de la conversation, de la méditation ? Comment est-ce que la méditation vient aider Augustin à retrouver l'image ?
La méditation, c'est vrai, chez Augustin, elle n'est pas d'abord une prise de parole, paradoxalement, mais elle est une écoute, donc un silence. Donc on médite d'abord en se taisant, en écoutant ce qu'il appelle aussi le verbe intérieur. Donc c'est laisser le verbe intérieur, le maître intérieur, c'est-à-dire le Christ, laisser le Christ parler en soi et se mettre à l'écoute. Mais après, en effet, cette écoute n'est pas non plus unilatérale, elle suppose une réponse, d'où l'expression de conversation. Cette expression de conversation intérieure, je l'avais empruntée comme titre de l'ouvrage à Pascal. Pascal dit « Il se fait en nous une sorte de conversation intérieure ».
Alors aujourd'hui, conversation intérieure, cela ne parle pas forcément. Qu'est-ce qu'on dirait ? Dialogue, pensée sûre, recueillement, à quoi s'apparentent ces mots ?
On peut déjà dire ce qu'elle n'est pas tout à fait, c'est peut-être plus facile de commencer par là. Elle n'est pas bavardage, elle n'est pas logorée. Vous vivez peut-être une époque de logorée ou de parole, une époque où l'on communique, période de communication, mais finalement on communique sans se parler. Et il me semble que dans l'esprit d'Augustin, mais dans l'esprit du christianisme tout court, la communication est certes importante, mais c'est la communion qui est importante. Et les deux mots étymologiquement ont la même racine, on le sait bien. La communion est plus importante que la communication. La conversation intérieure, c'est un début de communication, bien sûr, avec le verbe intérieur, mais cette communication, s'efface en quelque sorte pour laisser la place à quelque chose de plus mystérieux, de plus indicible, en un sens, qui est une écoute du verbe, une réponse en partie muette, une sorte de communion en effet.
Alors Christian Belin, vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle. Comment est-ce que vous est venue l'idée de vous intéresser à la conversation intérieure?
Alors c'est la lecture de Pascal qui essentiellement qui m'a fait choisir, je dirais, cette spécialité, c'est-à-dire le XVIIe siècle, et en particulier, au fond, l'étude en fait du christianisme au XVIIe siècle. C'est beaucoup plus large. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est de saisir l'évolution du christianisme au XVIIe siècle, parce que c'est pour moi une période clé. C'est là où on bascule dans un état de non-chrétienté, car ça commence là, véritablement. C'est le dernier éclat apparent de la chrétienté, mais en fait, on bascule vers autre chose. Et Pascal est un des rares contemporains à avoir pris conscience. Il sait qu'en fait, il y a très peu de vrais chrétiens, c'est-à-dire très peu de saints, et que le christianisme apparent de la société, de la sienne, bien sûr, hein, celle du XVIIe siècle français, au fond, n'est qu'une apparence, mais que l'ordre de la charité est très différent. Il est secret et mystérieux, et il ne coïncide pas avec l'ordre social ou politique de la chrétienté apparente. Alors voilà, c'est cette transition, ou cette phase, ce passage qui m'a particulièrement toujours intéressé.
C'est étonnant de vous entendre parce que vous parlez d'apparence, d'idole, d'idolâtrie, de dissemblance, comme aussi une nostalgie que l'on retrouve chez saint Augustin des réalités éternelles.
Oui, je crois que l'iconoclasme est un refus un peu naïf, parfois stupide, mais que l'on peut comprendre des images. Il me semble que les images, non seulement dans l'ordre religieux, les icônes, mais les images tout court, même dans notre société, ne sont valables ou ne nous parlent que si l'on sait qu'elles sont fondamentalement toujours quelque peu dissemblables. Que, autrement dit, que la véritable image se cache de toute façon derrière les images que nous avons. Et cette prise de conscience est salutaire, elle est difficile, mais elle nous préserve de l'idolâtrie. C'est-à-dire, il ne faut pas, en effet, peut-être être iconoclaste, mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte d'iconolâtrie. Et il me semble que notre époque, qui aime tant la logorée dans l'ordre du langage, est parfois facilement iconolâtre.
Et comment réagissent vos étudiants quand ils vous entendent parler de méditation, de conversation intérieure?
Alors, c'est très intéressant parce que ils n'ont pas tellement d'idées reçues sur le XVIIe siècle et sur la littérature religieuse et sur le christianisme. Très souvent, ils sont tellement, il faut bien le dire, ignorants de ces réalités que, au fond, ils n'ont pas vraiment d'idées reçues. Et on arrive à leur montrer des textes, ça m'est arrivé très souvent, non seulement des textes de Pascal, des textes de mystiques du XVIIe siècle, et ces textes-là passent très bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'ils n'ont pas tellement d'idées reçues. Notre travail, bien sûr, c'est de leur montrer que ces textes sont aussi intéressants et qu'ils peuvent leur parler, mais ce n'est pas si difficile que cela.
Et le pape, toujours aux Bernardins, disait que celui qui aime Dieu est aussi un amoureux des lettres, un amoureux de la parole. J'ai devant moi un professeur de lettres. Comment on se situe aujourd'hui dans cette France du XXIe siècle?
Je crois que dans la grande tradition monastique, bénédictine, cistercienne, le culte et la culture n'ont jamais été dissociés, si l'on peut dire. Et les moines ont toujours aimé la culture, quels que soient d'ailleurs les ordres religieux. Ils aiment la culture et ils ont été des gens qui ont transmis la culture. Par conséquent, il n'y a pas effectivement d'opposition. Cela va ensemble. On ne peut pas concevoir, je crois, en un sens, la vie chrétienne, enfin, l'épanouissement personnel, chrétien ou autre, sans avoir un amour profond pour la culture, parce que ça va dans le même sens. On ne peut pas, je crois, aller vers ad imaginem, on ne peut pas aller vers l'image sans s'élever de tout son être. On oublie, des fois je le rappelle aux étudiants et ça les amuse parce qu'ils ne le savent pas, que le mot élève veut dire, au sens propre, c'est une belle métaphore, quelqu'un qui s'élève, qui va vers le haut. Et donc il faut toujours tendre vers le haut.
Bon, quels ont été vos coups de foudre?
Pascal, que j'ai découvert quand j'étais au lycée, qui a enclenché une sorte de conversion, voilà, personnelle, parce que j'étais d'une famille laïque et indifférente. Donc c'est la lecture de Pascal a été décisive pour moi.
Vous avez dit tout à l'heure que Pascal se rendait compte qu'on ne trouvait plus de grands saints.
Oui, il parle souvent des vrais chrétiens. Ce sont bien sûr les saints. Ce sont ceux qui sont dans l'ordre de la charité, invisibles aux yeux du monde, enfin que Dieu seul connaît, mais il était persuadé de ce petit nombre au fond. C'est-à-dire ce qui change l'Église et ce qui change le monde, c'est la sainteté. Ce sont les saints. Et non pas les institutions, non pas quoi que ce soit. Et ça, c'est une intime conviction qu'il a. Sa véritable passion, c'est celle-ci. C'est la sainteté. Il a essayé, comme au fond tout chrétien doit essayer, de tendre vers l'image, mais c'est-à-dire de devenir saint, tout simplement.